Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est un réel plaisir pour moi de revenir à Poitiers, hein, à l'université de Poitiers. Alors moi, j'ai fait mes études de l'autre côté de l'avenue du recteur Pinault, mais c'est toujours agréable de revenir dans cette cité poitevine. Donc, on va passer une heure, en une heure, vous dresser des notions de bioéconomie, de définition de biomasse. Et puis aussi, et pour moi, le principal intérêt, c'est aussi de vous montrer qu'il y a déjà des projets industriels qui existent sur la valorisation de la biomasse pour faire des produits industriels et au service de la bioéconomie, et que ces exemples, on les trouve en Nouvelle-Aquitaine et pour plusieurs d'entre eux, même autour de Poitiers. Donc, en guise d'introduction, vous présentez une enquête, un sondage qui a été réalisé par le cabinet IFOP pour le compte de l'ACDV, qui est l'Association française de la chimie du végétal. Et l'année dernière, il y a un an à peu près, c'était la troisième édition de cette enquête qui est réalisée tous les deux ans. Tous les deux ans pour avoir finalement la perception qu'ont les Français des produits biosourcés. Et s'assurer que est-ce que c'est connu, pas connu, quelle est cette perception, quelle est leur image par rapport aux produits biosourcés. Donc, là, vous avez la méthodologie, mais je passe très vite. Et finalement, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que les Français ont plutôt une bonne image des produits biosourcés. Hein, vous voyez, donc 85% ont cette bonne image. Et finalement, depuis 2018, 2020, 2022, on est toujours entre 85 et 87%. Ensuite, les Français estiment qu'il est aussi nécessaire que les pouvoirs publics puissent aider au développement de ces produits biosourcés. Donc ces produits existent, il n'y en a peut-être pas suffisamment sur le marché. Aujourd'hui, il y a peut-être aussi un delta de coûts par rapport aux produits homologues qui vont être faits à partir de ressources fossiles. Et donc il y a aussi besoin d'un soutien des pouvoirs publics pour développer ces produits et notamment pour qu'il y ait des achats des pouvoirs publics pour pouvoir amorcer la pompe. Et ils pensent aussi que ces produits doivent permettre de dynamiser, réindustrialiser aussi le pays. Et quand on leur demande aussi, finalement, comment les pouvoirs publics peuvent aider, hein, c'est aussi permettre, puisque comme on va le voir, les ressources utilisées pour faire ces produits viennent pour l'essentiel de l'agriculture ou de la forêt. Donc ça peut permettre aussi le développement de ces produits, d'assurer des revenus, de sécuriser les revenus des agriculteurs. On l'a vu la semaine dernière, il y avait à Paris le Salon international de l'agriculture qui mobilise toujours beaucoup de monde. À cette occasion, les journalistes reviennent sur le monde agricole et sur le fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, qu'un agriculteur sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ces produits doivent permettre aussi aux agriculteurs de sécuriser leur revenu. Ils doivent aussi permettre de créer de nouveaux emplois. Aussi, puisque ces produits, finalement, comme on va le voir, sont issus de matières premières locales, de pouvoir s'affranchir d'une part de pétrole et d'être plus indépendant, autonome par rapport aux ressources, par rapport aux matières premières, et puis aussi devrait, dans le plan français, le plan européen de la décarbonation. C'est vrai que là, depuis quelques temps, avec notamment la hausse de l'énergie, on entend beaucoup plus souvent ce terme de décarbonation, donc utilisation de moins de ressources ou de ressources renouvelables. Donc ça participe aussi voilà, à la réindustrialisation de l'Europe et de la France. Alors, la bioéconomie, vous verrez que la bioéconomie, c'est avant tout déjà une économie, mais une économie qui a une particularité, puisque c'est une économie qui se fonde sur des ressources renouvelables, sur ce qu'on appelle des bioressources. Donc là, par rapport à cette planche, hein, donc, et notamment si vous regardez le schéma, le dessin, en haut, vous avez ces ressources dites de carbone renouvelable, hein, et il y en a différents types. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle de la biomasse, hein, qui vient du monde agricole, du monde marin, de la forêt. Donc ça, je vais vous les détailler. Et puis un quatrième type de carbone renouvelable, que sont les biodéchets. Les biodéchets qui peuvent venir de l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, mais aussi des ménages. Je n'en reparlerai pas, notamment au niveau des ménages. À partir de 2024, ces biodéchets, il faudra les valoriser. On n'aura plus le droit de les mettre dans la poubelle grise, la poubelle noire. Il faudra les mettre en compost. Donc, pour pouvoir faire en compostage, pour pouvoir faire du compost. Et en dessous, vous avez les applications. À quoi peuvent servir ces biomasses une fois qu'on les a transformées, qu'on les a valorisées? Donc, vous voyez, on peut en faire de l'énergie, on peut en faire de l'alimentation. Et ça, c'est important. Et ça, j'insisterai plusieurs fois, c'est que la fonction première de l'agriculture et des agriculteurs reste quand même avant tout de nourrir la planète. C'est bien de pouvoir fabriquer des biocarburants, fabriquer des matériaux, avoir accès à des molécules, mais quand même la première mission de l'agriculture reste de nourrir la planète. Et ça, faut pas qu'on l'oublie. Et ça va, il va y avoir un rôle d'arbitrage sur l'utilisation de la biomasse. Et puis, cette biomasse, ce carbone renouvelable, peut être aussi utilisé pour développer des molécules. Alors, on dit biomolécules, mais les molécules, ce sont les mêmes que celles qui sont faites à partir de la pétrochimie. Et puis, on fait aussi des matériaux qui vont être renouvelables, des matériaux qui peuvent aussi être biodégradables. Et donc, la bioéconomie, c'est cet ensemble. On part de matières premières, on les transforme. Il peut y avoir différentes étapes de transformation pour aller vers des produits qui sont ensuite utilisés par les consommateurs. Et donc là, c'est ce qu'on appelle cette bioéconomie. Et vous avez la phrase là, la bioéconomie, donc créer les conditions du passage d'une économie. Donc ça reste de l'économie, mais cette fois, elle est fondée non pas sur des ressources fossiles, mais sur du carbone renouvelable. Et c'est ce qu'on appelle la biomasse. Alors, quels sont les atouts de cette bioéconomie? On estime en France que la bioéconomie, aujourd'hui, elle emploie 1,6 million de personnes. Donc là, ça va aussi bien des agriculteurs, en passant par les industriels de l'agroalimentaire, mais également les chimistes qui vont utiliser cette biomasse pour en faire des molécules, pour en faire de l'énergie. En termes aussi de chiffre d'affaires qui peut être associé à cette bioéconomie, vous voyez, c'est de l'ordre de 300 milliards d'euros. 10% de la filière chimie et matériaux aujourd'hui, on estime qu'elle vient de la biomasse, hein, que cette bioéconomie représente 10% de l'industrie de la chimie et des matériaux. Alors vous me direz, finalement, là, on parle de bioéconomie depuis quelques années, mais avant, par exemple, les cosmétiques faits à partir d'extraits végétaux, ça rentre dans la bioéconomie. Avant, jamais on aurait parlé de chimie biosourcée, mais finalement, cette bioéconomie où la production de pigments végétaux, de couleurs extraits des plantes, s'en est. Et l'homme en a toujours fabriqué. Mais c'est vrai que là, c'est un terme aussi que l'on met plus en avant déjà depuis quelques années. Également au niveau des énergies renouvelables, hein, puisque 60% des énergies renouvelables sont issues de ces ressources. Hein, c'est notamment tout ce qui est le bois énergie. Hein. Là, on fait abstraction de l'éolien, aussi de tout ce qui peut venir de l'hydroélectrique. Mais voilà, 60% des énergies renouvelables sont issues de la biomasse. Ça participe aussi au paysage, hein, à l'entretien des forêts. Et ça, c'est important, notamment quand on l'a vu l'été dernier avec les méga-feux en Gironde et dans les Landes. C'est vrai qu'une forêt qui va être aussi bien gérée va être aussi une forêt qui va avoir tendance à moins brûler. Et puis, il contribue aussi, comme je vous le disais en introduction, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc à lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, à partir donc de cette bioéconomie, elle repose sur un outil principal, hein, qui est la chimie biosourcée. Alors, la chimie biosourcée, ça reste de la chimie, hein. Alors, on parle aussi de chimie verte, de chimie durable. Les puristes font de la distinction, mais on va dire, nous, à notre niveau, c'est la même chose. Le terme de chimie verte peut être un peu ambigu parce qu'il y a le raccourci en disant la chimie verte, c'est la chimie du végétal. Or, vous verrez que la chimie biosourcée, certes, on parle beaucoup de végétal, mais pas que. Moi, je vais vous parler aussi de biomasse animale, de déchets. Donc là, on n'est pas forcément sur du végétal. Et puis, sur le biosourcé, on voit plus que ce que ça représente. Et là, sur ce transparent, je vous ai mis finalement deux définitions, deux concepts d'éminents chercheurs français, hein, donc Paul Colonna, qui travaille à l'Institut national de la recherche sur l'agriculture et l'environnement, hein, l'INRAE, et puis Jean-Claude Charpentier du CNRS. Et donc, finalement, le concept de Paul Colonna, là, ce que vous pouvez lire, lui se focalise plus sur l'impact, en fait, positif que peut avoir la chimie verte ou chimie durable, l'impact sur l'environnement et puis sur l'impact sanitaire. Jean-Claude Charpentier, qui lui est à la fois chimiste et qui vient du génie des procédés, lui, finalement, ce qu'il nous dit, c'est que aujourd'hui, on a à peu près 25% de ce qui est prélevé dans la nature, on le retrouve vraiment dans le produit final. Ça veut dire que 75% de la matière première de base est gaspillée. Donc, il y a une réelle prise de conscience de se dire, mais finalement, ces 75%, il faut qu'on puisse améliorer les procédés pour pouvoir les intensifier, les concentrer, pour faire qu'un maximum d'atomes, un maximum de matière se retrouve dans la matière première et pas dans le coproduit, dans le déchet. Donc, voilà, lui, ce qu'il dit, c'est pouvoir produire finalement mieux, mais avec moins, ou produire plus avec la même quantité. Et dans le prolongement de ces deux définitions-là de chercheurs français, quand même, les pères, ce qu'on appelle les pères de la green chemistry, hein, de la chimie verte, ce sont deux chimistes américains, Paul Anastase et John Warner, qui ont été les premiers en 1998 à proposer une définition synthétique, précise et concise de ce qu'est la chimie verte en énonçant 12 principes. Donc là, vous retrouvez les 12 principes de la chimie verte, et eux, l'originalité finalement de leur concept, c'est de ne pas juste regarder la réaction chimique, de se dire les matières A plus B, lorsqu'elles vont réagir, elles vont vous donner C ou vont vous donner C plus D. Ou, voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école, à l'université. Voilà, quand on a des cours de chimie, on regarde surtout la réaction. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est finalement l'ensemble du procédé depuis les matières premières, le choix des matières premières. Est-ce que si on cherche à faire le produit C, est-ce qu'il faut vraiment partir des matières premières A ou B, mais est-ce qu'on peut partir de Y et de R? Donc c'est ce qu'ils vont regarder. Et puis ce qu'ils regardent aussi après, c'est ils vont donc depuis la matière première jusqu'au produit final et à la gestion des déchets. Si vous voulez le produit C et qu'on fait D, est-ce qu'en revoyant les conditions, eh bien, on peut faire moins du coproduit D, ou est-ce qu'au lieu de faire D, on peut faire le coproduit E qui va être plus facilement éliminable. Donc c'est ce qu'on vraiment, ils regardent tout le procédé, ils regardent comment on peut modifier aussi les réactions. Lorsque l'on utilise des solvants, est-ce qu'on peut utiliser des solvants qui ne soient pas toxiques au lieu de travailler à des températures élevées, est-ce qu'on peut baisser la température en rajoutant ce qu'on appelle un catalyseur? Donc ça, ils ont vraiment tout regardé et ils ont énoncé les 12 principes. Alors là, l'objet là, aujourd'hui, c'est pas qu'on regarde dans le détail ces 12 principes, mais on va s'attarder sur un qui est le septième, et qui correspond finalement à la chimie biosourcée, puisque ce septième principe, c'est l'utilisation de matières premières renouvelables, de carbone renouvelable. Et ça, derrière, c'est finalement la définition de ce qu'est la chimie biosourcée. Donc cette chimie biosourcée, comme je viens de vous le dire, elle représente le septième des 12 principes de la chimie verte. Et donc cette chimie biosourcée, c'est une chimie qui va permettre de réduire l'utilisation de ressources fossiles. On n'élimine pas forcément à 100% les ressources, le carbone fossile, qui peut venir du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Et on va le remplacer par des matières premières, par ce qu'on appelle de la biomasse, qui sont des matières premières renouvelables. Et derrière, on va faire comme à partir de la pétrochimie, on va faire des produits finis on range là en deux grandes catégories, donc des matériaux. Alors des matériaux qui peuvent être du plastique, qui peuvent être aussi des composites, qui peuvent être aussi, maintenant on a par exemple du béton chanvre, et ces matériaux, on va les utiliser dans les applications connues, les applications classiques, que sont l'automobile. On peut en retrouver aussi dans l'aéronautique, alors plutôt pas sur des pièces aujourd'hui structurelles, des avions ou des hélicoptères, mais plutôt sur l'habillage des cabines, dans le domaine du bâtiment, pour faire des isolants, dans celui de l'emballage. Et ça, c'est on s'en rend compte même là, c'est depuis le 1er janvier où vous avez dans tout ce qui est restauration hors domicile, là, les, les plastiques issus de la pétrochimie jetables, plastiques jetables, sont interdits. Hein. Donc c'est ce qu'on voit dans toutes les chaînes de fast-food aujourd'hui. Soit ils partent sur plutôt du carton ou des emballages carton ou également des produits qui sont réutilisables, hein, comme les gobelets. Et puis donc dans le domaine des sports et loisirs aussi, on voit de plus en plus de ces matériaux avec des propriétés qui vont être comparables à ce que l'on retrouve avec les produits issus de ressources fossiles. Et puis, vous avez en face les molécules, hein, les molécules chimiques. Hein. Je vous ai parlé de la cosmétique, ça c'est vrai depuis longtemps. Vous avez les peintures, les teintures, mais vous l'avez aussi dans d'autres produits, hein, les produits sanitaires. On fait aussi de plus en plus de colles dites vertes ou les graisses. Mais là, après, je vous montrerai quelques exemples en fin d'exposé. Donc là, sur ce transparent, vous avez la définition officielle, hein, puisqu'il y a une définition officielle de la biomasse. Hein. Donc la biomasse, c'est la fraction biodégradable, donc ce qui va être amené à se dégrader. Alors quand on dit biodégradable, c'est sur une échelle assez courte, hein, parce que tout produit finit toujours par se dégrader, mais il faut que ça se dégrade, un produit puisse se dégrader en quelques semaines, maximum plusieurs mois. Alors on va dire, vous allez me dire, mais si le produit se dégrade avant de l'avoir utilisé, où est l'intérêt? Alors ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que ces produits vont se dégrader, mais dans des conditions particulières. Il faut de l'humidité, il faut de la chaleur pour que puissent se développer les micro-organismes qui vont être capables de dégrader le matériau. C'est vrai qu'un produit, il ne va pas se dégrader. On n'est pas non plus des magiciens. Il ne va pas se dégrader comme ça en un claquement de doigts. Donc ça prend du temps et il faut des conditions où la biodégradation, eh bien, elle peut se développer. Mais donc voilà, la biomasse, c'est la fraction biodégradable qui va se dégrader des produits, mais aussi de déchets, de résidus qui proviennent de l'agriculture, à la fois des substances végétales, mais aussi animales. Hein. Ainsi, l'animal, ça peut être les déjections animales, mais pas que. Hein. C'est par exemple la corne de bovin qui est utilisée pour faire de l'engrais. C'est les laines de mouton. Alors c'est vrai que les laines de mouton, on fait de la laine pour des textiles, donc ça participe à la bioéconomie. Vous me direz, mais là, il n'y a rien d'innovant, c'est vieux, enfin c'est vieux, c'est tout. Enfin, l'homme depuis très longtemps utilise la laine pour se vêtir. Oui, c'est vrai, mais on utilise aussi pour faire des composites où on va remplacer les fibres de verre par ces laines de mouton. Donc il y a plein d'applications, plein d'innovations, de nouvelles innovations. Qui se conjuguent finalement avec des usages plus anciens, plus traditionnels. Et aussi, alors qu'ils vont être issus aussi bien du milieu terrestre, mais aussi du milieu aquatique, hein, alors autant la mer que l'eau douce, la sylviculture, donc issue de la forêt, et les industries connexes. Alors les industries connexes, là, ça va être davantage tout ce qui va être lié, par exemple, à l'industrie du bois, c'est tout ce qui va être les menuiseries, les scieries, où lorsque vous rentrez un tronc d'arbre pour faire des planches, eh bien, vous allez écorcer l'arbre, vous allez après faire des planches, mais tout le tronc n'est pas utilisé, il va y avoir de la sciure, il va y avoir des parties qui vont être moins nobles, ces parties-là, finalement, c'est ce qu'on appelle l'industrie connexe. On va aussi les réutiliser, alors bien sûr pour faire des pellets, hein, pour faire du bois énergie, mais on peut aussi, à partir du bois, Mais je vous montrerai, on peut aussi faire de l'éthanol, hein, donc un alcool. Et puis bah, toute la partie bah, qui vient à la fois aussi des déchets ménagers ou des déchets industriels, essentiellement des déchets de l'agroalimentaire. Là, on parle à la fois de fractions biodégradables, mais aussi de fractions fermentées cibles. Il faut que ça puisse fermenter. Donc, voilà la définition globale de ce qu'est la biomasse. Après, au niveau des biomasses, vous avez différents types de biomasse. Alors, j'ai essayé de pas vous mettre trop de molécules, hein, mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Donc là, le premier type de biomasse, c'est la biomasse glucidique. Donc c'est celle qui va contenir du sucre. Et le sucre, finalement, cette biomasse, elle va contenir le sucre soit à l'état de sucre, hein, donc c'est ce que vous avez là sur la partie gauche, hein, avec ben, ça peut être du glucose, ça peut être du fructose, essentiellement ce sont ces types de sucre, ou vous avez aussi ben, une biomasse dite glucidique, où le sucre va être présent sous la forme d'un polymère, ce qu'on appelle de l'amidon. Donc, et un polymère, finalement, c'est, vous avez, par exemple, si on prend un collier de perles, le collier, c'est le polymère, le collier de perles, et puis chaque perle, c'est un monomère. Donc, un polymère, c'est une succession de motifs, des mêmes motifs, donc une succession de monomères. Et donc, le glucose, c'est la perle, c'est le monomère, et puis vous avez l'amidon, qui, lui, va être le polymère, donc un polymère de sucre. Donc là, c'est ce que vous allez retrouver sur la droite. Et cette biomasse, là, sa particularité, c'est que finalement, on va rentrer en concurrence. Alors pour des usages industriels, on va entrer en concurrence avec les usages alimentaires. Ce sont aussi des matières premières qui sont alimentaires. Et le type de valorisation, c'est une valorisation par conversion biochimique, c'est-à-dire par fermentation, comme on verra. Et là, vous avez des photos de ce que sont ces biomasses, glucidiques. Alors, je vous disais, on peut trouver soit le sucre à l'état de sucre, hein, c'est ce que vous avez à gauche. Hein. Alors, moi, quand je fais cet exposé en plus petit, comité, je demande aux gens s'ils reconnaissent. En général, on reconnaît quasiment tous les types de biomasse. Bon, des fois, il peut y avoir des petites subtilités, mais bon, là je vais aller au plus vite. Hein. Donc, vous avez la betterave sucrière. Vous avez en dessous, à gauche, ben, la canne à sucre. Alors, c'est vrai qu'on n'en retrouve pas beaucoup ou forcément en France, ou du moins en métropole, et ça va être davantage dans les dom-toms, ou après, ben, c'est vrai au Brésil, hein, qui est le plus gros producteur de canne. Vous avez le sorgho aussi sucrier. Au milieu, ben, les plantes céréales, en haut, ben, tout ce qui va être le blé, orge, en dessous, le maïs. Hein. Donc là, sur les plantes céréalières et les tubercules, là, on est avec de l'amidon. Ce sont des plantes qui sont riches en amidon. Et puis après, ben, vous avez les racines. Hein, donc en haut à droite, la pomme de terre. Et puis en dessous, le manioc. Donc là, ça, c'était le premier type de biomasse, la biomasse glucidique, donc riche en sucre. Le deuxième type de biomasse, c'est la biomasse oléagineuse. Celle-ci, elle va être riche en huile et en protéines. Et cette biomasse, donc, elle est constituée surtout de triglycérides. Hein. Donc, vous voyez que les triglycérides représentent, on est entre 95 à 98% de la totalité de l'huile. Et donc là, vous avez un triglycéride. En fait, un triglycéride, ce sont trois molécules d'acide gras, hein, qui sont reliées entre eux par leur fonction, la fonction acide. Et donc là, on est aussi sur une matière première qui va venir concurrencer les usages alimentaires. Et là, la conversion, c'est une conversion dite chimique. Et donc là, vous avez quelques photos de biomasse oléagineuse. Hein. Donc alors là, il y en a qu'on reconnaît très vite, parce que ici, dans le Poitou, c'est vrai que le colza en haut à droite ou le tournesol en bas à gauche, c'est des plantes, on va dire, un peu emblématiques de la région. Après, les trois autres, on ne les trouve pas encore dans le Poitou. Moi, du moins, je ne suis pas encore pressé de les voir. Ça voudrait dire qu'on a eu un gros, gros problème de dérèglement climatique. Hein. On voit que le changement s'opère. Mais quand même là, c'est des plantes qui ont besoin quand même de plus de chaleur. Hein. Vous avez le palmier, donc l'huile de palme. Hein. Et puis au-dessus... En fait, c'est le soja. Alors le soja, pour info, j'ai appris ça moi il y a la semaine dernière. On commence à en voir dans le sud de la France et même en sud de Nouvelle-Aquitaine, il y a des expérimentations pour cultiver du soja. Et puis en bas à droite, c'est ce qu'on appelle le jatropha. Alors je pense que autant les quatre premières, même si vous n'en avez jamais vu, vous en avez entendu parler. Le jatropha, c'est peut-être moins vrai. Alors le jatropha, c'est un petit arbuste qui pousse dans des zones semi-arides et avec une forte teneur en huile, mais avec une particularité, c'est que l'huile est impropre à la consommation. Il y a une toxine. Qui fait qu'on ne peut pas le consommer, ni l'homme, ni l'animal. Donc lui, il peut se prêter justement à une valorisation pour des applications non industrielles. Donc la biomasse oléagineuse, ce qu'il faut retenir, c'est celle qui fournit de l'huile. Troisième type de biomasse, la biomasse lignocellulosique. Alors là, la lignocellulose, c'est la matière première qui est la plus abondante sur Terre. C'est ce qu'on retrouve notamment dans... Ce sont les arbres, ce sont les arbustes, les branches. Et donc, c'est la matière première la plus abondante et qui va se retrouver vraiment sur l'ensemble des continents. Et elle va être composée de trois principaux constituants hein, que sont la cellulose. Alors la cellulose, c'est tout à l'heure je vous parlais d'amidon, polymère de sucre. La cellulose est un autre polymère de sucre. Vous avez des hémicelluloses qui sont aussi des polymères de sucre. Je ne rentre pas dans le détail de la différence entre cellulose et hémicellulose. Et vous avez aussi la lignine. Alors la lignine, elle, c'est aussi un polymère, mais ce n'est pas un polymère de sucre. Et la lignine, c'est ce qui donne justement, ce qui fait qu'un arbre, bah, finalement, un tronc, une branche, va être rigide. Donc ça, c'est apporté par la lignine. Et vous voyez, la lignine, c'est aussi encore bah, des molécules chimiques hein, qui sont intéressantes avec ce qu'on appelle là, des cycles benzéniques, hein, des cycles aromatiques. Voilà. Et cette biomasse, en fait, lignocellulosique, on va la retrouver dans des coproduits. Alors, ce qui est aussi important, c'est que la biomasse lignocellulosique, par rapport aux deux premiers exemples, aux deux premiers types pardon, de biomasse, c'est que cette biomasse-là, elle ne vient pas concurrencer les usages agricoles, puisqu'on ne mange pas encore de bois. Donc, cette biomasse lignocellulosique, on va la retrouver dans des coproduits de l'agriculture, hein, donc dans des pailles, vous avez après des sarments de vigne, dans des coques, l'enveloppe des graines, aussi bien de céréales, mais de tout type de graines qui ont une enveloppe. Donc ça va être de la lignocellulose. Et puis tout ce qui est taille d'arbres, là on va aussi retrouver les déchets verts. Ça, c'est de la lignocellulose. Il y a aussi ce que je vous disais, les produits de l'industrie connexe, hein, donc les écorces, les sciures de l'industrie du bois. Et puis, on peut aussi faire de la culture, hein, de cette biomasse. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle, alors il y a les forêts cultivées, mais les forêts cultivées, elles sont cultivées ben, pour faire des planches, pour, voilà, où les arbres vont, ça va être sur plusieurs dizaines d'années, les 50, 60 ans, qu'on va cultiver ces forêts avant d'aller abattre les arbres. Là, on est sur ce qu'on appelle des taillis courte rotation, donc avec des espèces comme le bouleau, le peuplier, des espèces qui vont pousser vite et que l'on va finalement récolter au bout de quelques années, hein, 5 à 10 ans. Et vous voyez que par rapport, donc c'est la deuxième photo, hein, celle-ci, c'est par rapport à, parce qu'on imagine toujours se dire, ben, les arbres finalement, ben, c'est les bûcherons, il faut y aller avec des tronçonneuses, enfin des gros, c'est l'exploitation forestière. Là, vous voyez, là, ils utilisent une ensileuse et c'est le même type. Alors, c'est un équipement qui est adapté, mais c'est le même type d'équipement qui est utilisé bah, finalement pour ramasser, récolter le maïs. Donc on utilise une ensileuse tout pareil, parce que bah, vous êtes sur des troncs encore qui sont petits, mais c'est ce qu'on appelle le taillis courte rotation. Et puis bah, vous avez aussi les deux autres photos. Donc là vous avez ce qu'on appelle le miscanthus, et ici l'herbe à éléphant. Et là, c'est un peu comme le roseau. Ce sont des rhizomes, c'est-à-dire que vous allez planter ces rhizomes. Chaque année, on coupe et puis bah, ça repousse. C'est des plantes envahissantes, mais qui ont des rendements de tonnes en matière sèche qui sont intéressants. Voilà. Et puis le dernier, ce sont ben, là des déchets de l'agriculture, enfin de l'industrie, pardon. Vous avez des palettes, hein, un tas de palettes en bois, et puis du textile, puisque les textiles coton, le coton c'est de la cellulose, et donc les déchets textiles, vous pouvez aussi les valoriser. Et le dernier type de biomasse, c'est la biomasse halieutique, c'est-à-dire la biomasse issue finalement d'organismes qui vivent dans l'eau, aussi bien eau douce qu'eau de mer. Et là, c'est essentiellement les algues. Hein. Donc, sur la première colonne, vous avez ce qu'on appelle des macro-algues, hein. les algues vertes, les algues brunes, qui représentent de la biomasse, et aussi les micro-algues. Donc là, toutes les autres photos là, qui sont prises au microscope, là, ce sont des micro-algues et avec des formes, des couleurs différentes. Et la particularité de ces micro-algues, c'est que finalement, ben, c'est des matières premières qui sont... On ne peut pas dire qu'elles viennent concurrencer les usages alimentaires. Et puis, elles ne vont pas parce que la biomasse lignocellulosique, je vous disais, on est sur du non-alimentaire, mais on occupe quand même... ben finalement des hectares de terre qui pourraient être utilisés pour cultiver des denrées alimentaires. Là, on est sur de la culture hors sol. Donc, on ne vient pas concurrencer ce type de culture. Et l'autre avantage de cette biomasse, c'est sa synthèse, son activité photosynthétique, puisque la croissance de la biomasse, elle est 10 à 30 fois plus rapide que celle de la biomasse terrestre. Par contre, l'inconvénient aujourd'hui, c'est les coûts de production de cette biomasse qui restent très élevés. Donc, on a vu que pour la bioéconomie, on part de ressources qui viennent de la biomasse ou de biodéchets. Hein. Donc, c'est ce que vous retrouvez sur la gauche, et que à partir de ces ressources, eh bien, on va fabriquer différents produits, différentes matières pour différentes applications, hein, avec quand même la première application, donc c'est celle du tout à droite, hein, c'est l'alimentaire, l'agroalimentaire. Mais donc pour passer des ressources aux applications, finalement on va utiliser un outil, hein, qui va être de pouvoir transformer la biomasse pour en faire des produits de base pour la chimie et les matériaux, et ensuite pour les autres industries. Et cet élément clé, cet outil, c'est ce qu'on appelle les bioraffineries. Donc une bioraffinerie, finalement, on retrouve, c'est l'analogie avec la raffinerie, hein, où la raffinerie, on part d'un pétrole brut qu'on va fragmenter pour obtenir différents produits. Ben là, c'est la même chose. Hein. Là, on part de la biomasse, et la biomasse, on va la couper, la fragmenter, la traiter, la purifier, donc c'est ce qu'on appelle le raffinage, hein, pour obtenir différents produits qui vont avoir après une application bien à eux. Donc on est en analogie avec la raffinerie. Et puis, donc ça vous permet d'aller vers une valorisation donc alimentaire, mais aussi industrielle. Voilà. Et puis, ce concept de bioraffinerie répond aussi au double enjeu de la réindustrialisation et de la décarbonation, donc pouvoir utiliser plutôt du carbone renouvelable que du carbone fossile. Après, vous me direz, mais les bioraffineries, finalement, ça existe depuis longtemps. Vous voyez, là, moi, c'est le schéma, le plus ancien que j'ai trouvé, hein, voilà, qui a quasiment 50 ans, où, même si on n'appelait pas ça encore une bioraffinerie, mais sinon, c'est ça. Où en haut, vous avez la biomasse, l'agriculteur qui va produire cette biomasse. Cette biomasse, ensuite, elle est transformée, hein, il y a différentes transformations, et puis elle va être valorisée et utilisée en alimentation. À l'époque, on parlait plutôt de nourriture, hein, que d'aliments. Mais après, on peut aussi en faire des produits industriels, de l'énergie, hein, du carburant, et puis pouvoir faire des plastiques, et puis d'autres molécules ou d'autres matériaux. Donc quand on parle de raffinerie, et je vous disais que je vous montrerai des exemples de la région. Alors, la région est grande, hein, c'est la plus grande des régions françaises, hein, la Nouvelle-Aquitaine. Et dans les Landes, donc dans le bassin aquitain, finalement, il faut savoir qu'en France, et là on va être autorisé jusqu'en 2040, on produit toujours du pétrole. Alors on produit à peu près 1% de notre consommation totale de pétrole. Vous me direz, 1%, c'est quasiment zéro, mais on en produit quand même 1%. Et ce 1%, on va le produire à part égale dans le bassin parisien et dans le bassin aquitain. Donc là, c'est à Parentis en Borne. Hein. Donc là, vous avez, vous voyez, un puits de pétrole qui est exploité sur le lac de Parentis. Hein. Donc pour ceux qui vont en vacances ou qui iront en vacances, on voit les puits. Et puis finalement, ce pétrole brut, après on l'emmène en raffinerie, et la raffinerie, vous voyez, c'est schématisé à côté. Donc on va chauffer le pétrole à 370 degrés, donc un pétrole qui va être liquide ou qui va être un peu pâteux, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi des pétroles lourds, va se vaporiser, va passer à l'état de gaz, et après on le refroidit avec différents niveaux, hein, c'est ce qu'on appelle la distillation, le fait de chauffer à 370 degrés et de refroidir par niveau, et à chaque niveau, finalement, vous allez avoir une catégorie de produits. Vous allez avoir les produits les plus légers, ça va être des gaz. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle aussi l'éthylène, le propylène, qui en pétrochimie vont vous donner des plastiques, hein, le polyéthylène, le polypropylène, hein, pour utiliser pour l'emballage, pour faire les pièces plastiques les plus communes. Et puis après, vous avez les carburants. D'abord, l'essence, qui est plus légère que le kérosène, lui-même plus léger que le gazole. Et ensuite, vous avez vraiment les fuels, et vous avez le fond du baril. Vous avez ce qu'on appelle les bitumes. Donc ça, c'était la raffinerie. Et par analogie, vous avez la même chose sur la bioraffinerie. Donc là, vous avez la filière de l'amidon. Bon, je vais passer vite, hein, parce que je vois que l'heure tourne. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a une usine. Donc c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, à Lac. Alors pour les plus jeunes, Lac, ça ne doit pas vous parler. Pour les plus anciens, je pense que oui, puisque Lac, c'était là où en France, il y avait le plus grand gisement de gaz naturel. Aujourd'hui, ce gaz naturel est encore exploité, mais uniquement pour une consommation des industriels qui sont sur, localisés à Lac. Le gaz naturel n'est plus commercialisé. Mais pendant des dizaines d'années, il y a eu de l'exploitation de gaz. Et une fois que la poche de gaz, le gisement s'est tari, il a fallu trouver de nouveaux... de nouvelles applications. Et donc, c'est là qu'il y a eu une industrie chimique qui est venue remplacer l'exploitation du gaz. Et vous avez d'immenses plateformes chimiques. Vous avez une trentaine d'industriels de la chimie. Et vous avez notamment cette usine Vertex qui, à partir de maïs... Vous voyez là en silo, tout à l'heure, je vous montrais sur les taillis contre rotation. Là, vous avez la même chose, mais avec du maïs. Ils fabriquent de l'éthanol, donc un biocarburant à partir de maïs. Donc c'est ce qu'on appelle la première génération. Et où là, comme c'est à partir de maïs, on vient concurrencer les usages alimentaires. Autre exemple là d'une bioraffinerie, mais sur la filière des huiles végétales. Et c'est pas très loin d'ici, c'est à Chalandray. Au nord de Poitiers. Donc vous avez l'usine de COC, COC qui est une coopérative agricole. Et donc à partir de colza ou de tournesol, vous allez faire une première étape qui est de la trituration. Donc à partir de la graine, on va tirer l'huile. Et cette huile, on va lui faire subir un semi-raffinage, donc on va la purifier et faire une réaction dite de transestérification pour faire un ester végétal. Et cet ester, c'est ce que on connaît sous le terme de diester. Diester, c'est une marque, mais pour ceux qui ont un véhicule diesel, quand vous allez à la pompe, on voit écrit B7, B10. Le B, c'est pour dire biodiesel, et après le chiffre, ça vous donne la quantité finalement de biodiesel. Donc un biodiesel, aujourd'hui en France, quand vous achetez du gazole, il est forcément additivé avec du biodiesel. Et s'il ne l'était pas, le distributeur de carburant est obligé de payer des taxes au gouvernement français. Donc un B7, vous avez 7% de biodiesel. Et tout à l'heure, je vous parlais d'éthanol carburant, mais c'est pareil. Sur l'éthanol, vous avez aussi de l'éthanol autour de 5%, où vous avez après le super éthanol, le 85, où là, vous avez 85% d'éthanol, 15% de super carburant. Mais là, pour ce type de carburant, il vous faut un véhicule spécial. Il faut modifier le moteur du... Enfin, ce n'est pas le moteur qu'on modifie, il faut rajouter un calculateur pour le mélange entre le carburant et l'air. Voilà. Et puis, le troisième type de bioraffinerie, c'est la filière lignocellulosique. Et donc là, vous avez une usine, on revient dans les Landes, l'usine de Rayonnir à Tartas. Et en fait, donc là, vous avez tout un tas de produits que vous reconnaissez, que vous devez en utiliser certains. Ces produits ne sont pas forcément faits qu'avec de la biomasse issue de la lignocellulose, mais pour la plupart quand même, vous voyez qu'il va y avoir au moins un constituant qui va être issu de lignocellulose ou de cellulose. Et donc, l'enjeu majeur de ces bioraffineries, c'est qu'aujourd'hui, les modèles existent, mais ils sont pas aussi... le modèle n'a pas été aussi poussé que pour les raffineries. Bon, je vous rappelle quand même que les raffineries... elles ont plus de 70 ans d'existence. Donc les bioraffineries, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais l'idée, c'est vraiment qu'il faut pouvoir faire émerger les bioraffineries et au plus proche finalement des territoires, puisque la biomasse, elle, C'est des points fixes, donc il faut que les bioraffineries soient plus proches des gisements de biomasse et donc au plus proche des territoires, assurer aussi donc de l'emploi dans les territoires. Et ça ne va pouvoir se faire qu'en associant aussi la chimie et la biotechnologie. Donc je vais vous donner quelques exemples industriels dans la région. Donc ce que je vais vous montrer, c'est l'arbre vert. Déjà, donc, puisque l'arbre vert, alors c'est une marque, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez la marque de l'arbre vert. Bon, derrière, c'est une entreprise qui s'appelle Novamex, dont le siège social est à Cavaillon. Par contre, l'usine, elle est à Saint-Benoît, près de Poitiers. Voilà. Donc, et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et donc, les produits de l'arbre vert sont fabriqués à Saint-Benoît, et où vous avez une cinquantaine de personnes, et vous avez aussi toute la recherche, le développement se fait aussi à Saint-Benoît. Bon, là je passe sur l'histoire de la marque, mais vous avez, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'arbre vert, vous avez là des produits. Alors là, ça c'est la gamme de produits de détergence les lessives, mais et vous avez aussi la gamme hygiène de l'arbre vert. Donc ça c'était le premier exemple. Le second exemple, donc Futuramat. Alors Futuramat, c'est une PME qui se trouve à Dissay, hein, donc entre Poitiers et Châtellerault, et qui fabrique ces petits granulés. Ça, ce sont des granulés de plastique, mais du plastique biosourcé. Tout à l'heure, je vous parlais de polyéthylène, de polypropylène. Avant de faire, par exemple, une bouteille d'eau en PET, on part de granulés. Et les plastiques, avant la mise en forme, on part toujours de granulés. Et ces granulés, donc là, vont être en biosourcés, vont être biodégradables. Donc cette société donc, va fabriquer à façon, en fonction de la demande de ses clients, l'application pour faire ces granulés. Alors pour fabriquer ces granulés, la première étape, c'est qu'il va falloir sécher, parce que en fait, les plastiques, ils n'aiment pas trop l'humidité. Donc, or, une farine végétale, elle, est bien souvent, vous allez avoir une dizaine de... Même si au toucher, ça, on a l'impression que c'est sec, ça ne l'est pas forcément. Et donc, l'idée, c'est d'abord de bien sécher avec moins de 1% d'humidité la farine avant de l'associer au plastique. Et c'est un plastique qui va être lui-même biosourcé, et le plastique va jouer le rôle finalement de colle, d'agglomérer la farine végétale. Donc c'est ce qui se fait à l'étape 2, c'est le compoundage. Et derrière, ces produits, vous allez pouvoir en faire des pièces de mobilier, vous allez pouvoir faire aussi des vis de paillage. Alors ces vis de paillage, par exemple, elles ont été utilisées pour installer le paillage sur la LGV entre Saint-Pierre-des-Corps et puis Bordeaux. Vous pouvez aussi, à partir de... Alors, bien sûr, à chaque fois, en changeant la composition, je vous disais que cette entreprise travaille à façon. Donc, on peut changer, la composition. Là, c'était pour faire des dosettes de café qui sont compostables, donc qui vont aussi se dégrader. On peut faire des jouets. Et cette société s'est aussi beaucoup développée dans le domaine de l'horticulture, donc pour faire des pots. Alors, on connaît tous ces pots noirs qui sont en polyéthylène. Là, c'est une matière qui est proche, qui a les mêmes caractéristiques, mais qui va être compostable. Vous le mettez dans votre tas de compost et au bout de quelques semaines, ça va disparaître. Donc là, vous avez toujours le pot qu'on retrouve aussi chez des maraîchers. Et puis, application maraîchage. Et quand je vous disais que ça va disparaître en quelques semaines, donc vous voyez, là, vous avez ce qu'ils appellent la virgule qui sert à guider. C'est pour lorsque la culture hors sol, notamment de tomates, c'est pour guider le fils du tuteur de tomates. Et donc là, vous avez le matériau, c'est pas grave, virgule, c'est pas ce qu'il faut retenir, mais c'est surtout un matériau qui va être compostable. Et donc vous voyez qu'au bout d'une semaine, il commence à être attaqué. Au bout d'un mois et demi, il est déjà bien dégradé, et vous voyez que il est déjà désagrégé. Et puis au bout de 3 mois, il est encore plus. Donc, et après, dans la terre, il va se retrouver à être dégradé. Et voilà, mais toujours dans le domaine du maraîchage ou de la viticulture. Donc là, les manchons pour protéger les jeunes pieds. Alors, il faut aussi faire attention à ce que vous mettez dedans, parce que finalement, parce que là, c'est pour protéger les jeunes pieds de vigne, finalement, qu'il y ait du gibier, des lapins qui viennent finalement les manger. Il faut savoir aussi que les manchons, finalement, des fois, vous avez des animaux qui viennent manger la matière, parce que c'est à base, il y a du blé, du maïs. Et quand je vous montrais tout à l'heure l'étape de compoundage, il faut savoir, quand vous allez dans l'atelier de Futuramat, des fois, si on avait les yeux fermés, des fois, on pourrait se dire qu'on est dans une boulangerie, parce que ça sent vraiment, on sent vraiment la farine qui cuit, et ça sent le pain. Voilà. Et le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est celui de Michelin, puisque cette semaine, Michelin a sorti son nouveau palmarès classement des restaurants étoilés. Et en fait, Michelin a une usine en... Alors, il y en a eu une par le passé à Poitiers, qui a fermé il y a quelques années, mais sinon, Michelin a une usine près de Bordeaux, à Bassens, qui est la seule usine du groupe en Europe qui ne fabrique pas de pneus. Mais elle va fabriquer la matière première, le caoutchouc synthétique. Et là c'est de la chimie. Et Michelin s'est engagé en 2050 à faire un pneu qui soit 100% issu de matière première biosourcées ou recyclées. Et Michelin s'appuie pour ça sur son usine de Bassens, où actuellement il y a des démonstrateurs pour faire ce pneu. Et là, ils ont fait un film qui vous explique comment faire ce pneu. Voilà, vous partez de déchets, qui peuvent être des déchets végétaux, des déchets d'emballage. Et ça va se faire en plusieurs étapes. Et ce biobutadiène, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Bassens. Il y a une unité de démonstration de 20 à 30 tonnes qui tourne depuis cette année. Donc, ils récupèrent de l'éthanol. Tout à l'heure, je vous disais, l'éthanol, on peut en faire un carburant. Mais eux, ils font une autre matière qui s'appelle du butadiène. Voilà, le butadiène étant un des deux principaux constituants d'un pneu. Et le deuxième, c'est à base de styrène. Donc ils partent de déchets d'emballage, de pots de yaourt, d'emballage alimentaire, pour casser le polystyrène en styrène. Hop. Et quand ils ont récupéré le styrène, ils le mélangent avec le biobutadiène, ils laissent agir la chimie, et voilà, ils ont fait un caoutchouc synthétique durable. Après, ça ne suffit pas, il faut rajouter des composants. Donc la tresse de caoutchouc, parce que la tresse, elle était blanche, hein, elle n'était pas encore noire, donc on récupère le noir de carbone. Voilà, là vous avez tous les éléments. Et en 2050, un pneu qui sera 100% issu de matières recyclées et biosourcées. Voilà. Et ça, c'est fait à, voilà, près de Bordeaux. Donc aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 115 à 120 industriels qui développent déjà des produits qui transforment la biomasse pour en faire des produits biosourcés. Donc on est vraiment une région moteur et peut-être aussi parce qu'on est aussi la première région agricole d'Europe et puis le premier massif forestier aussi cultivé d'Europe. Donc quelques chiffres clés sur... la conclusion. Mais pour dire que la chimie biosourcée, c'est un véritable pilier de la bioéconomie, qu'elle est porteuse de solutions. Hein. Ça va pas être forcément, tout ne va pas forcément être amené par la chimie biosourcée. Hein. C'est comme pour là sur l'énergie, on parle de plus en plus de mix. Hein. Et ça permet de réduire la quantité de ressources fossiles. Hein. Donc là, on œuvre pour aussi la décarbonation. C'est en lien, bien sûr, si on utilise moins de ressources fossiles, on va moins émettre de gaz à effet de serre. Et puis, permettre aussi à l'industrie chimique de développer de nouveaux procédés qui vont être plus respectueux de l'environnement. Offrir une opportunité aussi de développement aux agriculteurs, aux producteurs de biomasse, donc les sylviculteurs aussi. De proposer des opportunités d'innovation avec des produits qui sont complètement nouveaux et en intégrant de plus en plus de biotechnologies industrielles. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Et puis, de toujours nouer des partenariats forts entre le monde industriel et le monde universitaire, le monde académique. Hein. On a aussi, enfin, les industriels ont aussi besoin des chercheurs. Il faut que ça soit aussi pluridisciplinaire, avec des chimistes, des gens qui sont issus des procédés, de l'intelligence artificielle, du digital, la biotechnologie, j'en ai parlé. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la biomasse, elle croit et pousse sur des points fixes. Et donc, ça va permettre aussi de créer ou de maintenir de l'emploi sur les territoires. Voilà, puis je vais m'arrêter là, parce que s'il y a des questions... Je vous remercie.
Merci déjà pour votre présentation. J'ai une question sur le pneu Michelin. Est-ce que vous savez s'il est aussi solide que les autres pneus?
Oui, c'est l'engagement de Michelin. C'est d'avoir un pneu qui dure aussi longtemps. Ça, c'est... voilà, parce qu'ils ont quand même ce rôle de leader. Après, il y a toujours l'ambition de faire un pneu presque qui garde, enfin, qu'on garde jusqu'à la fin de vie de la voiture. Et je dirais aussi un autre point sur Michelin, c'est que finalement, travailler aussi sur la décarbonation, parce qu'aujourd'hui, il y a des normes dans l'automobile où les véhicules doivent émettre de moins en moins de CO2. Et finalement, le pneu participe aussi à cette politique. Avoir un pneu tout en gardant de l'adhérence, hein, mais de la sécurité, puisse faire qu'on consomme moins de carburant. Ça, c'est aussi étudié en parallèle du pneu durable de Michelin.
Oui, au début, vous avez dit qu'il fallait un support des pouvoirs publics. Est-ce que vous connaissez le pourcentage en recherche des partenariats publics-privés qui sont consacrés à des recherches biosourcées?
Alors, je ne vais pas être en mesure comme ça de vous donner un chiffre. Ce que je peux vous dire, c'est que Là, il y a eu un premier programme qui aujourd'hui est terminé, qui était la période post-Covid, qui s'appelait France Relance. Et actuellement, il y a un programme France 2030. C'est des programmes de l'État pour des projets qui sont innovants, voire très innovants, comme il n'y a jamais eu. Là, on a des programmes France 2030, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, dont je crois, mais alors je ne devrais pas vous dire de bêtises, ça doit être 5,7 milliards d'euros pour notamment le biosourcé. Le biosourcé, il y a aussi une part sur la décarbonation, mais là, il y a eu des aides comme il n'y a jamais eu et comme je pense on n'est pas prêt d'en revoir, justement pour accélérer cette décarbonation. Et alors, on peut se dire que ce sont des aides importantes. Certes, ce sont des aides importantes, mais il faut savoir que c'est sans commune mesure avec ce qui est fait, notamment aux États-Unis, où là où c'est le made in USA, où là c'est même indécent. Et c'est tellement indécent que vous avez, et c'est finalement c'est le biais, c'est que vous avez des industriels européens, notamment là de l'industrie chimique allemande, qui aujourd'hui n'investissent plus en Europe, mais vont investir aux États-Unis parce qu'il y a des aides. Finalement, ils construisent l'usine gratuitement. En France, ou en Europe même, on n'en est pas encore là. L'Europe réfléchit à contrecarrer voilà, ce plan, mais c'est, ça s'appelle l'IRA. L'IRA hein. Et c'est des sommes, là, c'est fou. Ouais. Donc il faut que l'Europe ça réagisse, parce que là, on parle des États-Unis, mais en face, il y a aussi, enfin, de l'autre côté, on va dire, il y a aussi la Chine qui s'est remise du Covid et qui repart fort aussi. Ouais.
Que pensez-vous de la méthanisation dans le monde agricole ?
Alors, la méthanisation dans le monde agricole, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Ce que l'on voit, par contre, là, arriver de plus en plus, c'est de la méthanisation industrielle qui, là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas en mesure de vous dire si elle va faire du tort ou pas à la méthanisation agricole. Parce que la méthanisation agricole, donc pour faire du méthane, ce qui est bien, c'est que vous utilisez à la fois les biodéchets de l'exploitation agricole hein, sur place. Donc là, on a vraiment en circuit très court, on est sur des petites unités donc, qui sont réactives. Alors, bien souvent, ça ne suffit pas que la biomasse de l'exploitation, mais c'est vraiment, on est vraiment en circuit court. Ça, c'est l'avantage. Après, l'inconvénient, des fois, c'est sur ces petites unités, c'est pour mener la méthanisation à régler, c'est pas toujours évident. Et par contre, les grosses méthanisations, et là c'est pareil, on a un nouvel acteur qui s'appelle Total Energy, là, qui se lance aussi sur la méthanisation, mais là on est sur de très gros méthaniseurs industriels. Là on va aller chercher très loin la biomasse, c'est peut-être plus stable, mais là on n'est plus en circuit court.
Je m'intéresse un peu aux questions agricoles. Vous savez que la semaine dernière, c'était le salon de l'agriculture. Donc, on a beaucoup parlé des problèmes du monde agricole. Vous l'avez dit vous-même.
Merci. Donc, du peu de revenus de certains agriculteurs, je pense que la biomasse tirée du monde agricole, quand il s'agit de déchets, c'est très bien. Par contre, il va y avoir une grande dérive. Parce que dans le monde agricole, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance à l'industrialisation, vous venez de le dire, et puis il y a l'agriculture réelle, faite de paysans, qui exploitent leurs terres et qui sont dans le pays. Et donc là, malheureusement, eux ne sont pas des grandes exploitations, ça va de 10 à 200-300 hectares. Par contre, tout ce qui peut apporter de l'argent, tout ce qui peut apporter des aides de l'État, comme la méthanisation, faire de l'énergie avec la méthanisation, les panneaux photovoltaïques qui sont mis au sol éventuellement. Donc tout ça, ce sont les industriels du monde agricole, à savoir que ce sont des propriétaires de terres et qui n'ont rien à voir avec des agriculteurs. Donc le problème de la biomasse tirée du monde agricole, moi je pense qu'il va y avoir de grandes dérives, et on le voit déjà, ben, rien que dans la Vienne. Hein, vous savez qu'il y a un méthaniseur sur Mini-Auxances qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Le but de ces méthaniseurs, c'est de mettre du maïs dedans, voire de la paille, mais du maïs principalement. Le maïs, donc, comme vous le savez, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc ces gens-là, ce sont des grandes exploitations, ils ont des matériels pour irriguer. Donc ils vont irriguer forcément ce maïs, dépenser beaucoup d'eau, pomper de l'eau dans les nappes pour pouvoir arroser. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils quémandent donc de faire des méga bassines pour pouvoir arroser quand ils le veulent l'été. D'ailleurs cet été, vous avez pu le remarquer, si vous, pour ceux qui passent à côté de Mini-Auxances, vous aviez des rampes d'arrosage qui fonctionnaient H24, alors que l'irrigant moyen qui a peu de capacité d'irrigation, lui, il était bloqué par le décret de la préfecture. Donc on va vers un déséquilibre énorme dans le monde agricole, et je pense que la biomasse qui peut servir justement à créer plein d'autres choses, mais tirée du monde agricole, est pour moi une grande dérive. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors moi, je ne vais pas être aussi spécialiste que vous sur la partie agricole. Moi, ce que je vous dirais, mais c'est plus moi personnellement, petit-fils de paysan, mais pas... Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis un PDG, je suis un paysan directeur général, mais qui était, voilà, c'est ce que vous appelez, vous, les agriculteurs industriels qui géraient finalement ses exploitations, même comme vraiment comme un capitaine d'industrie. Là, moi, l'ineptie que je vois dans la méthanisation, c'est quand, voilà, on va... parce que pour moi, la méthanisation, elle est vertueuse quand on utilise des déchets. Mais se dire, je vais faire pousser de la biomasse et après je la fauche pour la mettre dans mon méthaniseur, à mon avis, il y a plus simple à faire pour pouvoir faire de l'énergie. Enfin, pour moi là, on marche sur la tête quand on va faire de la biomasse, en sachant que c'est pour mettre dans le méthaniseur et qu'avant, il n'y a pas une étape de première transformation pour être utilisée à autre chose. C'est qu'on la met directement dans le méthaniseur. Donc là, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Et après, il faut voir comment on peut quand même optimiser nos cultures. Et il y a quand même, heureusement, vous avez quand même des agriculteurs. Et moi, je pense à un qui a développé en Charente une start-up qui s'appelle Elicite Plante et qui met au point des biostimulants pour stimuler justement les plantes quand elles sont en stress hydrique, pour qu'elles puissent plus se renforcer par rapport au manque d'eau. Et comme ça, ils augmentent de 10 à 12% les rendements en maïs. Je vous invite à aller voir sur un Elicite Plante en deux mots. Et ils font parce que j'aurais dit, mais parce qu'ils sont des start-up, souvent on vous dit, les start-up, c'est toujours près d'une université, dans les grandes. Je dis, mais eux, ils sont au fin fond de la Charente. Je dis, mais pourquoi vous êtes. Ils sont 60. Hein. Je dis, mais pourquoi vous êtes basé là? Mais parce que c'est la ferme familiale qui est ici. Donc il y en a quand même des agriculteurs qui vous dites. Ça vaut le coup aussi de pouvoir continuer à transformer la biomasse et aller vers de nouvelles valorisations. Mais je suis d'accord avec vous que les grandes exploitations qui sont là, qui regardent finalement quel est leur meilleur modèle économique? C'est ce qu'ils vont regarder en premier. Là, je cautionne beaucoup moins.
Merci. Encore et puis à très bientôt.
Merci.